aujourd'hui, on investit. Demain, nous rembourserons cette dette. Et nous la rembourserons de manière très claire. Un, par de la croissance. Deux, par un principe de responsabilité sur les finances publiques. C'est pas open bar. Et trois, par des réformes de structure que je continue à estimer indispensables, la première d'entre elles étant la réforme des retraites.
C'était mardi dernier dans la matinale de France Inter, présentation du budget, quand tout à coup, il a posé ça là, le ministre de l'économie, le retour de la réforme des retraites. Pour savoir qui va rembourser la dette, ça, dans le discours, on ne s'y attendait pas, c'est nouveau. Même si quand même, en septembre, Jean Castex nous avait bien prévenu, le gouvernement que je dirige, avait-il dit, n'a pas l'intention de ne pas traiter le sujet des retraites. Et donc, qu'est-ce qui ne va pas ne pas nous arriver? Eh bien, on ne sait pas. Cette sortie sur la réforme des retraites, on ne sait pas si c'est un ballon d'essai, un message au chef de l'État, un signal, disent certains, pour Bruxelles. En tout cas, à court terme, pour redresser les comptes en pleine crise, il en faudrait des mesures brutales sur les cotisations, sur les pensions ou encore sur l'âge de départ. Ça paraît quand même difficile. Un observateur me souffle qu'avant 2022, certains pensent peut-être à une amorce de réforme, un truc simple et pas coûteux du genre un geste sur les pensions de réversion. En tout cas, quelque chose pour dire qu'on a commencé la réforme et puis pour prendre rendez-vous pour le prochain quinquennat. Simple hypothèse, moi aussi, je pose ça là.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
C'est samedi, c'est Économie et c'est par ici. On n'arrête pas l'écho est réalisé par Juliette Gou. Valentin Pérez est attaché de production et à la technique. Ce matin, c'est Jadab Sangaré qui nous accompagne. Je salue les débatteurs qui sont assis dans ce studio. Christian Chavagneux d'Alternatives Économiques. Bonjour Christian.
Bonjour à tous.
Et Laurent Bigorgne de l'Institut Montaigne. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Christian, c'est quoi ce petit mouvement, ce petit sursaut sur la réforme des retraites? Vous aussi, vous l'avez entendu.
Quel est le rapport entre l'augmentation de la dette liée au Covid et la réforme des retraites? Comme quel est le rapport entre le Covid et la baisse des impôts de production? Le ministre des Finances et de l'Économie est en train de nous caser son agenda personnel et je ne vois pas pourquoi le gouvernement laisse faire ça.
Alors, il y a la paupière de Laurent Bigorgne qui est saute.
Qui s'est soulevé samedi à 9h15.
Je l'ai réveillé, c'est bien.
Il n'y a pas nécessairement un rapport direct de cause à effet, mais si on cherche à améliorer la situation des finances publiques à moyen long terme et la compétitivité, activité d'économie, il y a là deux viviers, deux gisements, évidemment, deux leviers sur lesquels il faut appuyer.
Et est-ce que j'ai le droit de vous demander, bien sûr j'ai le droit, est-ce que vous y croyez avant 2022 une réforme des retraites?
Vous avez souligné, Alexandra, un geste sur les pensions de réversion dans le sens d'une économie.
Ça c'est une petite bribe d'info.
Juste avant les élections, ils vont couper dans les pensions de
réversion. Ah non, un geste positif, quelque chose qui appartient à la réforme systémique.
Ça va accroître les dépenses, là, donc je ne vois pas le rapport avec la volonté du ministre.
Laurent, vous y croyez avant 2022 à quelque chose sur la réforme des retraites ou...
Quelque chose n'aurait pas nécessairement beaucoup d'intérêt. La question, c'est d'avoir le courage de poser le débat mieux qu'il n'avait été posé en février 2017 quand le candidat Macron était parti dans cette idée de réforme systémique sans vraiment donner un sens à ce projet. Si on peut, avant 2022, poser les fondamentaux et que d'ailleurs il y a une forme de clarté dans l'élection présidentielle autour de cette question, pourquoi pas?
Ça nous promet des débats, nous aussi. Allez, ce matin, en tout cas, puisqu'on n'en a pas plus sur la réforme des retraites, eh bien, on va continuer à décrypter le budget, le plan de loi de finances 2021. Et donc, là-dedans, il y a le plan de relance. On s'est déjà demandé ensemble, Christian, Laurent, si ce plan en fait assez pour l'emploi. Eh bien, ce matin, on va se demander s'il en fait assez pour l'écologie. Je vous retrouve dans une poignée de secondes. Je vous donne la suite du programme. Il sera question d'un des chiffres du budget, la dette. Comment les pays empruntent-ils sur les marchés? Où sont les limites finalement du quoi qu'il en coûte? Vous entendrez le reportage d'Hélène Filly. Et puis notre invité ce matin, c'est le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. Il sera dans ce studio vers 9h45. Et juste après, ce sera le moment Foulon. Bonjour Sandrine.
Bonjour Alexandra.
Alors Juliette vous écrit comme souvent, moi ça me stupéfait. Souvent les femmes écrivent pour prendre soin de leur mari, de leur fils. Hein, elles écrivent pour les autres.
Alors, oui, et là c'est pour son compagnon Maxime qui est diabétique. Vous savez Alexandra, depuis un mois, certaines personnes vulnérables n'ont plus droit à l'activité partielle avec l'épidémie qui reprend et c'est une bonne idée.
Est-ce une bonne idée? Réponse juste avant 10h, on sera là. Allez, tout de suite, le débat. En fait-on assez pour l'écologie? Je vous mets dans l'oreille la ministre de la Transition, Barbara Pompili. C'était juste il y a un mois, lors de la présentation du plan de relance. Elle y croit.
Mes chers collègues, mesdames et messieurs, je veux vous dire avec force et confiance que c'est un pas de géant pour la transition écologique en France. par son ambition, par sa cohérence, et j'insiste sur la cohérence, par sa solidité, il nous fait basculer dans l'écologie de demain, qui sera décarbonée, qui sera économe en ressources. On n'est pas seulement sur la relance de l'économie, là on est vraiment sur sa transformation. 30 milliards d'euros, ça représente une accélération sans précédent de la transformation écologique de notre société. Et au moment où nous affrontons une crise économique, sociale majeure, ce choix de l'écologie, ce choix de la relance verte, est une source d'espoir pour tous.
Alors pour tous, peut-être pas, parce que je vous propose maintenant d'écouter l'ancienne ministre écologiste Cécile Duflot. Avant-hier, elle participait à un débat organisé par le journal Le Monde et elle s'adresse à Bruno Le Maire.
Ce qui manque dans ce plan de relance, de façon pour moi presque triste en fait, c'est la question des conditionnalités évidemment, mais c'est la question du modèle. Alors qui se traduit par l'absence de conditionnalité, qui se traduit par la baisse des impôts de production, qui va bénéficier sans doute davantage aux entreprises largement émettrices de gaz à effet de serre plutôt qu'aux autres entreprises. Et je vous ai entendu, monsieur le ministre, sur France Inter, en buvant mon thé, et vous parliez de relancer le secteur aérien, de relancer l'automobile, sauf que c'est pas possible en fait. Et donc pourquoi, au moment où on est capable de mobiliser autant d'argent, et je pense que ce plan de relance est une bonne chose, que c'est très juste d'avoir y compris rompu avec d'autres dogmes, mais pourquoi il manque cette deuxième jambe? Pourquoi ne pas prendre l'occasion de dire « eh bien la France va changer ».
Les réponses au pourquoi, c'est dans « On n'arrête pas l'écho ». Laurent Bigorgne, donc on va reprendre les choses par le début, il y a un budget et on nous dit que pour la première fois c'est un budget vert. Alors ça veut dire quoi?
Ouais, il est vert à deux égards. Le premier égard, c'est qu'il va intégrer le budget 2021, puisque c'est ça dont on parle, tout un pan du plan de relance, effectivement, de ce côté très vert du plan de relance, cette trentaine de milliards, à la fois de dépenses et de crédits d'impôt, qui vont s'appliquer en 21 et 22. Donc, d'abord, il y a une composante verte qui est portée par le plan de relance. Mais surtout, il y a quelque chose qui a été lancé il y a quelques années déjà, et il y avait eu un engagement fort du gouvernement dès 2017 et concrétisé à partir de 2019. Il y a un budget vert, entre guillemets, qui est un document qui va comprendre une évaluation des recettes comme des dépenses publiques, budgétaires donc et fiscales, en fonction de leur impact sur l'environnement. Et donc, il y a un document qui accompagne le projet de loi de finances et qui, en fonction de critères, est-ce que les dépenses ou les économies, les dépenses pardon budgétaires ou fiscales qui sont envisagées sont bonnes pour l'eau, les déchets, la pollution, la biodiversité, l'atténuation, l'adaptation au changement climatique? Est-ce qu'en fonction de ces critères, on dépense bien l'argent public? Et on trouve, selon ce document, qu'il y a à peu près 40 milliards, 38 pour être précis, qui sont considérés comme verts du côté des dépenses, 58 milliards si on ajoute les dépenses fiscales. Alors, c'est au service des énergies renouvelables, c'est au service de l'aide publique au développement, c'est au service des crédits du plan de relance, hein, il y en a pour près de 7 milliards. Mmh. Et donc, on considère, à partir de là, qu'il y a presque 10% du budget, cette année, qui va aller effectivement à des politiques publiques qui sont verdies. Il y a 90% des dépenses qui sont neutres, et puis il reste 5 milliards de dépenses publiques, budgétaires ou fiscales, qui sont considérées comme ayant à la fois un effet positif et négatif sur la question du climat.
Donc
et 10 milliards, pardon.
Allez-y.
10 milliards de ce qu'on appelle de brun. D'ailleurs, l'opposé du vert, c'est-à-dire des dépenses qui sont encore considérées comme sales, c'est notamment des dépenses fiscales sur un
le
certain nombre
aérien,
exactement ou des taxes sur les carburants.
Voilà. Okay. Donc, un budget vert, nous dit Laurent, à deux égards. D'abord parce qu'il y a 30 milliards de relance écologique, et puis aussi parce que on l'a évalué, il y a quand même plus de vert que.
Il y a beaucoup plus de vert. Il y a quatre fois plus de vert que de brun.
Christian Chavagneux.
Alors, et c'est un bon principe, essayer de poser, de savoir dans nos dépenses publiques ce qui plutôt encourage la lutte contre le réchauffement climatique et plutôt ce qui l'encouragerait, ce qui décourage, ce qui encourage. Mais Laurent a cité les 6 critères. Suffit de respecter un seul des critères pour être considéré comme vert. Je vous donne un exemple. Le nucléaire, c'est considéré bon pour les émissions alors que ça produit beaucoup de déchets. Alors, on met vert ou pas vert? Eh ben oui, puisque un critère est rempli, c'est vert. Une très grande partie des dépenses sont considérées comme neutres ou positive sur un seul critère. Je vous donne un exemple, les subventions de la PAC. Les subventions de la PAC politique agricole commune qui ne fait qu'encourager année après année un modèle agrochimique très polluant. Eh ben, elles sont neutres, ces dépenses. Être classé vert, en plus, ne dit rien sur l'efficacité de la mesure. Vous avez le crédit d'impôt pour la transition énergétique. Évidemment, c'est vert, le crédit d'impôt qu'on peut... Mais est-ce que vous avez juste mis du mastic sur vos fenêtres ou est-ce que vous avez pris du double vitrage qui vous protège vraiment? On ne peut pas savoir. Donc, c'est bien, mais c'est pas du tout une estimation de la partie verte du budget. Ce qui est intéressant, de mon point de vue, mais c'est plus pour nos commentateurs politiques et économiques, c'est la volonté de com extrêmement importante du gouvernement de dire on est vert.
Attendez,
je pense que c'est
que
plus politique qu'économique.
Pour vous, ça n'est que de la com?
Bah, à ce stade, oui, parce que la méthodologie est loin d'être parfaite.
Oui, la méthodologie est loin d'être parfaite, mais c'est un premier pas. Je pense que la France est pour le coup assez en avance par rapport aux autres pays du monde sur cette méthodologie. C'est-à-dire qu'on est les premiers
mais
à engager.
C'est comme un vaccin, Laurent. C'est-à-dire oui, que c'est bien d'être en avance, mais il faut d'abord vérifier que ça marche bien.
Il faut un premier pas et les choses, vous le savez bien. Enfin, c'est la démocratie. C'est un bricolage, hein, continu et permanent.
Alors, on est d'accord. C'est un bricolage.
Oui, mais continu et permanent et qui va se perfectionner. Et ce que je constate, c'est que sur le critère que vous indiquez ou sur ces critères-là, ce qui semble, c'est que les dépenses vertes progressent de 30%. En 21, on progresseront, et les dépenses brunes vont baisser de 10%. Bien sûr que la taxonomie ou la façon dont on regarde tout ça est perfectible, mais c'est un premier pas, et il est fondamental. Et ce contexte, c'est quand même à la fois celui d'un plan de relance massivement verdi, et puis celui, effectivement, d'un budget qui prend en compte, alors qu'on n'en tenait pas compte du tout, il y a encore 3 ou 4 ans.
Non, ça, c'est quand même une grande nouveauté, mais j'entends, n'est-ce pas, Christian?
Je l'ai dit,
oui,
ça va dans
le bon sens.
Oui,
les réserves sur la méthode. Est-ce que vous êtes aussi sévère sur les 30 milliards de relance écologique dans le plan de relance?
Bah, évidemment. D'abord, c'est 30 milliards sur 2 ans, donc c'est 15 milliards par an. D'accord, il n'y a pas de volonté politique de changer de modèle. Cécile Duflot l'a bien dit, l'aide à une meilleure utilisation des pesticides. Si vous voulez changer de modèle, vous aidez pas à mieux utiliser les pesticides. Vous donnez de l'argent pour aider les agriculteurs à sortir des pesticides. Ça, c'est un vrai budget vert. L'avion vert, mais il ne faut pas développer les voyages en avion. Si vous voulez lutter contre le réchauffement climatique, il faut faire autre chose. Et pourtant, ce n'est pas la voie qu'a choisie le gouvernement. En plus de ne pas avoir de volonté de changer de modèle, c'est complètement incohérent. Des investissements numériques pour 11 milliards. On sait très bien que le numérique, plus vous l'utilisez, plus il est efficace, plus les gens l'utilisent, plus ça fait monter le réchauffement climatique. 20 milliards de baisse des impôts de production, on l'a déjà dit, les entreprises polluantes se frottent bien évidemment beaucoup les mains. Pas de baisse des subventions aux énergies fossiles. 30 milliards, c'est 15 milliards par an. Le montant des subventions aux énergies fossiles en France, c'est 11 milliards. Donc d'un côté, vous claquez 15 milliards pour dire « Oh, il faut être vert », et de l'autre côté, vous dépensez 11 milliards pour dire « on va être brun ». Donc c'est, on marche vraiment sur la tête. Et puis enfin, l'incertitude, parce que rénover les passoires thermiques dans les bâtiments, qui est l'un des produits phares de ce plan de relance vert, c'est 5 millions de passoires thermiques, pratiquement 20% du parc immobilier. En termes de montant, c'est pas si mal, 7 milliards alors qu'on nous dit qu'il faudrait rénover, mais est-ce qu'il y aura des gens pour le faire? Où sont les gens?
En même temps,
qui
Christian, si vous lancez pas le dispositif.
Et vous le lancez pour 2 ans. Et qu'est-ce qui se passe? En 2 ans, on n'aura pas rénové toutes les passoires.
Laurent Bigorgne.
Oui, mais je pense que là aussi, il faut regarder le point de départ et le point d'arrivée et considérer que la transformation écologique, si on veut qu'elle mette tout le monde d'abord, Christian, c'est-à-dire que ce soit pas seulement un truc décidé d'en haut, il faut embarquer la société. C'est plus facile à dire qu'à faire. On l'a bien vu sur l'affaire des Gilets jaunes. Vous essayez d'imposer une taxe carbone, qui est un bon principe, et vous retrouvez avec les gens dans la rue. Moi, ce qui me paraît nécessaire, c'est qu'on soit moins dans un changement révolutionnaire. Je vais faire un instant comme vous, je vais prendre mon joker et devenir un commentateur politique. Madame Duflot, elle a été au gouvernement. Hein, elle a eu des alliés socialistes, il s'est rien passé. Donc rappelons-nous aussi que c'est quelque chose qui prend du temps, qui doit embarquer les gens, et me semble-t-il, on est plus face à un mouvement de transformation dont vous avez raison de dire qu'il doit être continu, c'est donc les objectifs qui comptent, et puis ensuite la persévérance, ça peut pas être une révolution. Le changement de modèle, c'est des emplois derrière, on va peut-être en parler. Et sur l'industrie automobile,
on y va.
C'est des gens, c'est des sites, c'est des territoires, donc attention à ne pas casser le modèle, le transformer mais pas le casser.
On accélère l'utilisation des pesticides qui tuent les gens cancérigènes probables, ou alors on essaie de diminuer. C'est un choix extrêmement fort de société.
Est-ce qu'on laisse mourir l'industrie de la betterave en France et la production sucrière?
Mais je ne parle pas des cotinoïdes, je vous parle du Roundup, je vous parle de tous les produits Bayer. Est-ce qu'on se développe en France, on en remet encore une couche ou pas? Et vous me dites oui, on en remet une couche parce qu'il va falloir attendre 10 ans que les gens meurent.
Non, ils ne peuvent pas attendre 10 ans.
Attendez, ne marchez pas dessus.
On peut pas le faire en 6, 12, 18 mois. C'est pas vrai. On a bien choix. On a bien vu sur la betterave. L'exemple est excellent. On a bien vu sur la betterave. Il y a aussi un principe de réalité. Il y a des emplois, des gens. Voilà.
Alors, la betterave et maintenant l'automobile. Pardon. On a des batailles dans ce budget. On a une bataille sur l'automobile. Donc, je résume. Le gouvernement a bloqué la proposition de faire un malus sur le poids des voitures. La filière a sans doute poussé un ouf de soulagement cette semaine. Christian, qu'en pensez-vous?
Le lobby de la voiture peut respirer, mais pas nous. Il y a qu'eux qui vont pouvoir respirer. Hein. C'est très très court-termiste. C'est ce que vient de dire Laurent est très juste. Il y a beaucoup d'emplois derrière. Donc on voit bien que la voiture, les gens, c'est comme l'avion. Les gens vont prendre de moins en moins l'avion. post-Covid. Les gens utilisent de moins en moins leur voiture. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Nous, on a deux gros secteurs qui sont l'aéronautique et l'automobile. Il faut un vrai gouvernement qui veut engager la lutte contre le réchauffement climatique, nous dit, attention, avec tous ces emplois, c'est dès maintenant qu'il faut engager la reconversion. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez un rapport de l'OIT qui est sorti il y a quelques semaines, qui nous dit quoi?
Organisation internationale du travail.
Exactement. Si vous poussez les feux de l'investissement dans les transports publics, c'est 2 millions d'emplois créés en Europe. Si vous poussez les feux de la voiture électrique, c'est 1 million d'emplois créés en Europe. Donc vous voulez créer des emplois, vous voulez faire de la transition écologique, voilà, il faut pousser les feux dans l'investissement, dans les transports
publics.
Il
n'y en a pas dans le plan de relance
et pas dans la voiture.
Mais Laurent, il y a des investissements.
Mais bien sûr, j'ai dit.
On parle du lobby automobile comme si c'était un grand méchant goût. Il y a 150 milliards qui vont être investis dans les années qui viennent par l'automobile en Europe pour changer les gammes. Il y a, me savez-vous, 16 projets de batterie en ce moment qui sont conduits en Europe pour aller vers le véhicule électrique. Avec un vrai sujet, c'est que pour l'instant, l'appétence des clients pour le véhicule électrique, elle est très faible, y compris pour le véhicule hybride. Et par ailleurs, bonne nouvelle, moi j'ai regardé le rapport d'une ONG qui s'occupe au fond de Clean Transportation, donc du verdissement vert. Les deux marques françaises, les deux groupes français, PSA et Peugeot, sont quasiment... Pour PSA, c'est sûr, et Peugeot juste, pour Renault juste derrière, sont parmi les plus clairs en Europe sur l'objectif de 95 grammes d'émissions au kilomètre carré. Peugeot, ils sont même à 92. Et Renault est juste derrière. Donc les deux groupes français sont absolument exemplaires. Ils ont parfaitement réussi à atteindre les objectifs sans avoir à le faire comme le font des Italiens ou des Allemands, à aller racheter de l'émission de CO2 auprès de producteurs totalement électriques chinois ou américains. Donc il s'est passé énormément de choses. Cette industrie, elle a énormément bougé. Elle va continuer de bouger.
C'est une industrie du 19e siècle qui est polluante, qui est dangereuse et l'avenir ne sera pas dans les batteries électriques. 85%. Des batteries électriques aujourd'hui, ça vient d'Asie.
Mais on peut pas tous se déplacer.
12% aux États-Unis et 3% en Europe.
Oui.
3% en Europe, il va nous falloir 30 ans avant d'avoir des batteries électriques. On sera déjà passé à autre chose que la voiture.
Bon, oui. En tout cas, dans ces batailles, il y a donc eu le malus. Mais j'entends que le malus sur le poids des voitures pourrait revenir.
Et vous êtes intéressé, vous êtes obnubilé par la voiture, Alexandra. Ah ben moi, je voudrais vous parler.
Je connais un certain nombre de Français qui ont une voiture. Moi,
je voudrais vous parler du train, parce que dans ce budget. Il y avait un choix très clair. Est-ce qu'on favorise le train ou est-ce qu'on favorise l'avion? Et dans les choix du gouvernement, c'est l'avion systématiquement sur le train. Encourager le train pour les voyages de moins de 4 heures. Ça, c'était les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Ah ben non, a dit le gouvernement. 2h30. Pas d'extension des aéroports, demande la Convention. Ah ben si, quand c'est jugé nécessaire. Baisse de la TVA sur les billets de train. Ben non, Bruno Le Maire, il veut pas. Éco-contribution sur le transport aérien, une petite taxe sur le travail. Non, on veut pas. À chaque fois qu'il y a des bonnes propositions pour faire du train par rapport à l'avion, il veut pas.
C'est pas vrai. C'est pas vrai.
Allez, Laurent, le mot de la fin, c'est pour vous.
On vient de recapitaliser la SNCF. On vient de reprendre l'intégralité de la dette de la compagnie pour 35 milliards. Je pense qu'il y a eu un choix pour le ferroviaire très affirmé. Mais là aussi, on parle d'emploi, on parle d'activité économique, on parle de la vie des gens. Et je pense qu'il va falloir que l'écologie apprenne à trouver, elle aussi, pragmatiquement, le bon équilibre entre la réalité économique et politique. Bien sûr, mais je pense qu'on est en train de commencer.
Je crois que votre désaccord, c'est le rythme, la vitesse. Excellent débat, Laurent Bigorni et Christian Chavagneux, les débatteurs dont on n'arrête pas l'écho. Merci à vous. Et maintenant, l'économie au-delà de nos frontières. Ce matin, nous prenons la direction de Bruxelles. Bonjour Pierre Benazé. J'avais oublié Pierre, mais oui, on a ce petit jingle. Bonjour Pierre Benazé.
Bonjour Alexandra.
Pierre, vous êtes le correspondant de France Inter à Bruxelles. Alors je dis au-delà de nos frontières, mais en fait nous sommes concernés par la consultation que lance cette semaine la Commission européenne. Elle pose la même question à tous les Européens, question en ligne. Voulons-nous encore de nos pièces de 1 centime et 2 centimes d'euros? Pierre, dites-nous comment ça fonctionne cette consultation?
Ben c'est en deux temps. Il y a d'abord une feuille de route, c'est déjà ouvert, où chacun peut donner son opinion sur les pièces cuivrées. Il y a ensuite la partie questionnaire avec des questions assez précises sur l'utilisation des pièces de 1 et 2 centimes. La Commission cherche en fait à déterminer le meilleur scénario avec, en toile de fond, la question de l'arrêt des frappes de pièces de 1 et 2 centimes. Et en conséquence, surtout l'établissement de règles communes à toute la zone euro pour les arrondis.
Et donc là, tout le monde peut participer ?
Oui, même si la partie questionnaire, c'est seulement en anglais pour l'instant. Ah. Déjà, dans la partie opinion, on peut noter un phénomène amusant. L'essentiel des commentaires en allemand des dernières 24 heures demande le retrait des pièces de 1 et 2 centimes, alors que les commentateurs francophones veulent plutôt le maintien. Mais en fait, la suppression de ces pièces, ça existe déjà. En Belgique, ça fait 10 mois, par exemple, qu'elles sont plus acceptées dans les commerces. Mais avant ça, il y a eu l'Irlande il y a 5 ans, et surtout la Finlande dès 2002. Et il faut noter aussi des limitations en Italie et aux Pays-Bas, royaume d'ailleurs où la production de ces piécettes a été arrêtée il y a 16 ans déjà.
Alors ce que ça nous dit aussi, c'est que les Européens ont tous une approche très différente de la monnaie.
Ah oui, les Italiens et les Grecs auraient aimé voir des billets d'un euro. Les Irlandais trouvent que 8 pièces pour l'euro, c'est deux fois trop. Les Allemands aussi, ils trouvent que c'est de la mitraille. Ils auraient voulu des pièces de 5 euros. Ça aurait fait pendant d'ailleurs aux billets de 500 euros dont l'Allemagne avait largement poussé à l'adoption mais qui n'est plus émis depuis un an.
Alors du coup Pierre, est-ce que l'avenir de ces pièces de 1 et 2 centimes, nos pièces rouges, là, il est vraiment en péril?
Oui, et surtout parce qu'elles ont un seigneuriage négatif. Elles coûtent plus cher à produire que leur valeur faciale. Et puis il y en a vraiment beaucoup parce que à L2, elles représentent à l'échelle de l'UE, pour 931 millions d'euros. Elle pèse 170 tonnes de cuivre et d'acier. C'est des billions de pièces. Ça fait un certain nombre quand on pense que la 2 centimes pèse à peu plus de 3 grammes. Et puis on les accumule, on les perd. Bref, elle pose des problèmes. Même si elles vont manquer aux organisations caritatives et aux petits commerçants qui en sont les principaux bénéficiaires finaux. Et puis ça va faire perdre des emplois à nouveau. On en parlait puisque par exemple, l'atelier de frappe de la monnaie royale de Belgique a fermé en 2018 et qu'on estime que ces pièces représenteraient 80% de l'activité de l'établissement de la monnaie de Paris à Pessac, en Gironde.
Alors, il faut bien réfléchir avec cette consultation. Pierre Benazé, en direct du Plat Pays, merci à vous. Il sera dans 10 minutes dans ce studio, c'est notre invité François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France. Ce matin, on parle de dette, on va parler de la facture du Covid qui s'ajoute à la dette tout court, celle qu'on connaissait déjà. D'ailleurs, quand un État a besoin d'argent, est-ce que vous savez comment ça fonctionne ça aussi? Allez, on sort du studio, direction le 12e arrondissement de Paris. On n'est pas loin de la gare de Lyon, voilà, ministère de l'économie, Bercy. Et voici le bâtiment Colbert. Et au 9e étage, eh bien, faites la connaissance de l'homme qui, à notre demande, nous endette.
Je m'appelle donc Anthony Requin, je suis responsable de l'agence France Trésor. Ça, on a encore à peu près 20 minutes avant que... Avant que les choses se passent, mais on va se rapprocher du lieu du crime, si vous voulez bien. Donc dans la salle de marché de l'agence France Trésor, il y a à peu près une trentaine de personnes qui travaillent ici. Donc c'est un grand open space. Enfin grand, c'est petit par rapport à ce que vous pouvez trouver en salle de marché dans les banques. Hein, mais voilà, il y a beaucoup d'ordinateurs et d'écrans ici. L'opération que vous allez voir aujourd'hui consiste en l'émission sur trois souches différentes d'à peu près un maximum de 5,9 milliards d'euros.
Pour emprunter, on vend un titre de créance. Donc on vend un papier qui promet que l'État français remboursera sous telle échéance.
On est sur des niveaux de demande très confortables. Après, la question pour nous, ça va être de sélectionner ceux qui sont les plus intéressants pour le contribuable français. Et donc, vous savez qu'on est en situation, sur la partie courte de la courbe des taux, on est à taux d'intérêt négatif. Donc, on va essayer d'aller le plus bas possible pour que ça soit le moins cher possible pour le contribuable, voire en fait le plus profitable.
Il n'y a pas d'argent magique, d'accord, ça n'est pas de la magie, c'est de l'endettement, mais disons quand même que la réalité est surréaliste, baroque. Anthony Requin vient de nous l'expliquer, en fait, nous empruntons à taux négatif, c'est-à-dire que nos créanciers au bout du compte récupéreront moins d'argent que ceux qu'ils nous auront prêtés. Sur les emprunts à court terme, c'est comme ça depuis 6 ans. Et du coup, la dette devient plus légère. En temps de crise, quand elle explose, on est tous d'accord, hein, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça n'empêche qu'avec ces taux négatifs, nous sommes entrés en terre inconnue. Qui sait où sont les limites? Quand et comment il faudra rembourser? Et qui est concerné? Est-ce que c'est nous? Est-ce que ce sont nos enfants, nos petits-enfants? Allez, retour à l'agence France Trésor. Ça y est, on a trouvé les 5,9 milliards que nous souhaitions. Et notre reporter Hélène Filly en est restée d'ailleurs un peu estomaquée parce que tout ça, ça a pris quoi? 5,9 milliards, 2 minutes 30.
Sur le VTF, 3 mois, prix de marché moins 56,50, haute fourchette à 2,3 milliards, cumul adjugé 2,294 millions. Sur le VTF, 6 mois, prix de marché moins 0,57, figure haute fourchette à 1,6 milliards. Cumul adjugé, 1,596 millions.
Je confirme.
Sur le BTF, 12 mois, cumul adjugé, 1,995 millions.
C'était rapide.
Ah, au début, c'est rapide.
quand au moment de la crise Covid, du fait des besoins financiers croissants de l'État, on a dû chercher des financements complémentaires, naturellement, on a augmenté nos encours de titres à court terme et ce marché a très très bien réagi. Si on se replonge en avril, mai, on faisait des adjudications de près de 9 à 10 milliards d'euros, donc quasiment le double de ce qu'on a fait aujourd'hui. Voilà. Et donc on a doublé les tailles d'émissions avec un marché qui a parfaitement répondu. C'est une grande force en fait, hein, d'avoir une capacité comme ça pour faire face à un choc violent sur l'économie, avec une forte croissance du besoin de l'État, d'avoir une infrastructure et un écosystème qui répondent aussi facilement. Puisque voilà, l'État, vous savez, il roule sa dette, il la roule. Voilà.
Et donc, il roule sa dette.
Mais on la refinance perpétuellement en fait, sans arrêt, régulièrement, chaque année. À peu près 130 milliards d'euros de dettes qui viennent à maturité. Là-dessus, vous ajoutez le déficit public, ça vous donne un nouveau montant, et on réémet pour cette année, c'est exceptionnel du fait de la crise, c'est près de 260 milliards d'euros que nous émettons. Donc à peu près la moitié pour financer une dette qui vient à échéance, donc c'est là que vient le terme « rouler la dette », et pour 130 milliards, c'est de la nouvelle dette.
Mais qui s'arrache notre dette? Des grossistes d'abord. Ce sont 15 grandes banques qui revendent ensuite très vite à des fonds d'investissement, des assureurs ou des gestionnaires d'actifs comme Amundi. Le groupe gère 1600 milliards d'euros pour ses clients, aussi bien de grandes entreprises que des particuliers.
Bonjour, Pierre Blanchet, je travaille chez Amundi où je m'occupe de la stratégie d'investissement. Alors la dette française, vous allez la retrouver dans des produits d'épargne classiques, dans des produits diversifiés, des fonds équilibrés par exemple. Vous allez la trouver aussi dans les fonds pour les assureurs en fait. Vous allez la retrouver dans une petite mesure, mais quand même sur les comptes des particuliers qui peuvent acheter d'ailleurs aussi de la dette française sur leur compte.
Ce que vous dites, c'est qu'on peut retrouver de la dette publique française sur notre livret A, dans des assurances-vie.
Alors les Français détiennent une partie importante de la dette de leur pays. Alors je dis pas que sans le savoir, mais peut-être qu'ils ils se sont pas posé la question. Mais elle est très présente dans l'ensemble de l'épargne française, ça c'est sûr.
En quoi c'est un peu être un investissement intéressant?
Alors, d'abord, il faut bien comprendre que il y a beaucoup d'investissements qui sont faits pour des raisons entre guillemets techniques. C'est les caractéristiques de la dette française qui intéressent l'investisseur. Le taux, évidemment, est important, mais c'est parfois un critère de deuxième rang. Donc les critères, ça va être la solidité de l'émetteur. Et la dette française, c'est une dette qui est très liquide, émise par un État qui est considéré comme de bonne qualité. Donc ça, c'est une partie quand même très importante du flux d'investissement.
Pour l'instant, il y a encore beaucoup d'offres. L'offre est plus importante que la demande, que ce que l'État emprunte sur les marchés. Est-ce que ça va durer, à votre avis?
Alors, a priori, oui, parce que contrairement à ce qu'on imagine, il n'y a pas beaucoup d'actifs sans risque sur la planète. Donc la France n'a a priori pas de difficulté à trouver des acquéreurs, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres émetteurs.
Et ça va durer, peu importe le montant de dette émis par l'État?
Alors, peu importe, peut-être pas. Mais la réalité, c'est qu'on est encore très très loin d'un niveau d'endettement qui amènerait à ce qu'on appelle un risque de solvabilité. Ce qu'on a eu pour la Grèce, c'est un risque en fait qui est lié au défaut. Et vous voyez qu'on en est très 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 loin. Dans le cas de la France, il n'y a pas aujourd'hui de trajectoire qui nous amènerait là, si vous voulez.
Mais jusqu'où peut-on s'endetter sans danger? Cette question, ça fait 30 ans que les députés qui votent le budget chaque année se la posent. Gilles Carrez milite depuis toujours pour la maîtrise des dépenses publiques. Cette fois-ci, pour son 28e projet de loi de finances, c'est lui qui est déstabilisé.
Bonjour. Allez-y, entrez.
Bonjour, monsieur Carrez.
Ça va?
On a donné l'impression que l'argent coulait à flot. Et donc tous les ministères demandent aujourd'hui des doublements de leur budget. Tous. Il nous faut plus de fonctionnaires, il nous faut plus de moyens, il faut... Voilà. Donc c'est très difficile pour le ministre des Finances de faire face à toutes ces demandes. On leur a demandé d'être raisonnable toutes ces dernières années, et puis là, tout d'un coup, rien n'est trop beau à cause de la crise. Donc pour faire rentrer le lit, la rivière dans son lit, ça va être très compliqué. Moi, j'ai toujours été un ardent défenseur d'une certaine responsabilité budgétaire et financière. J'ai toujours rappelé qu'une dette, ça se remboursait. Mais aujourd'hui, je me pose des questions. Peut-être que dans 20 ans, dans 30 ans, la France aura 200% de dette de son PIB et que ça ne posera pas de problème pour autant. on emprunte, il ne se passe rien. Mais ça me rappelle toujours la, la fameuse phrase de Laetitia Bonaparte, la mère de Napoléon, qui disait toujours à son fils ou à sa famille, « Pourvu que ça dure ». Pour vous que ça dure.
Ce qui fait que ça dure, c'est aussi la Banque Centrale Européenne qui rassure les investisseurs parce qu'elle-même rachète de la dette comme jamais. Et ce n'est pas sans poser de questions à l'économiste du CNRS, Anne-Laure Delatte.
Un euro sur cinq de la dette française est détenu par la Banque Centrale Européenne. C'est exceptionnel. En fait, si on regarde les données historiques, moi, je n'ai retrouvé qu'un exemple comme ça. C'est la Banque d'Angleterre qui, à un moment, détenue 10% du stock de dette de l'Angleterre. Sinon, dans l'histoire, on n'a pas ça. Le point positif, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de problème de dette, qu'on peut emprunter auprès des investisseurs de façon très facile parce qu'ils savent qu'ils pourront la revendre directement à la Banque Centrale Européenne. Donc ça, c'est très positif. L'aspect moins positif, c'est que la Banque Centrale prend tout d'un coup un rôle fondamental dans la gestion de la politique économique. Ce rôle fondamental de la Banque centrale, il pose un problème démocratique parce qu'effectivement, ils ne sont pas élus. Christine Lagarde n'est pas élue, tout le comité n'est absolument pas élu. Et c'est même, on dit, nécessaire pour assurer la crédibilité de la conduite de la politique monétaire.
Est-ce qu'elle nous permet de nous endetter sans limite ?
Pour l'instant, aujourd'hui, elle ne met aucune limite. Elle le dit à demi-mot, elle teste un peu les marchés. Elle va continuer.
Il ne va pas falloir penser à rembourser un jour ?
En fait, ce que nous dit Bruno Le Maire, c'est qu'il veut cantonner la dette Covid, c'est-à-dire prendre ces 20 points de dette supplémentaire et les mettre dans une structure, une caisse, pour rembourser cette dette à part. Le gouvernement actuel nous dit pas d'impôts. Si on veut y croire, ça veut dire qu'il va falloir avoir des ressources. Est-ce que ça va être que l'activité économique qui va nous permettre de dégager des ressources supplémentaires ? Il nous faudrait beaucoup de points de croissance pour financer ces dépenses en plus chaque année. Bah, la solution, l'autre solution, c'est soit d'augmenter des impôts de façon, les plus discrets qui soient, mais les plus terribles qui soient, c'est la TVA. Soit vous divertissez, vous prenez des ressources qui servaient à quelque chose, vous les débranchez quelque part et vous les rebranchez ailleurs. On voit bien que c'est extrêmement technique. Je vous dis cantonnement, dette amortissable, taux d'intérêt, ressources, CSG, CRDS. C'est des choses extrêmement techniques, mais pourtant, vous les payez sur votre fiche de salaire. Moi, ce que je trouve inquiétant, c'est que pour l'instant, on n'entend pas beaucoup de partis politiques organiser ce débat.
La dette jusqu'où ? C'était le reportage d'Hélène Philly.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Et pour prolonger la réflexion, notre invité est arrivé dans ce studio. Je salue le gouverneur de la Banque de France. Bonjour François Villeroy de Gallo.
Bonjour Alexandre Ben Saïd.
Alors on va bien sûr parler de la dette, mais d'abord deux questions quand même sur le bilan de santé de l'économie. On voit ce qui se passe, ce qui s'est passé à Marseille. Paris se prépare à fermer ses bars. Lille, Lyon, Grenoble sont aussi sous pression. On voit les licenciements, les restructurations qui s'accélèrent. Certains nous prédisent une explosion des faillites. François Villeroy de Gallo, est-ce que là, nous sommes en train de vivre le coup de frein à la reprise ?
Je crois qu'il faut toujours garder un peu de recul. Et nous, nous mesurons chaque mois l'état de santé de l'économie française dans une enquête mensuelle de conjoncture qui sera publiée, Alexandre Ben Saïd, jeudi prochain. Donc je vous donne rendez-vous jeudi prochain. Mais en interrogeant, je vous dis quelle est notre vision jusqu'à présent, en interrogeant des milliers d'entreprises de toute taille, de tout secteur, nous avions vu jusqu'à présent une reprise qui était plutôt plus forte que prévue. Je vous rappelle les chiffres. Pendant le confinement, on a plongé très sévèrement. On était à moins 32% par rapport à l'activité normale. Et puis on a remonté plutôt plus vite que prévu. La dernière mesure qu'on a faite, c'était à fin août. On était revenu à moins 5%. À partir de là, nous avons fait une prévision sur l'ensemble de l'année 2020, qui est une récession. Hein. Ça, évidemment, le Covid va coûter à l'économie française une récession de moins 8,7%. Voilà, c'était notre prévision publiée il y a un mois. Aujourd'hui, je ne vois pas de raison de la changer, mais encore une fois, rendez-vous jeudi prochain.
Bien, on sera là jeudi prochain, mais j'entends que c'était moins pire que prévu et finalement, au global, ça n'a pas l'air de s'aggraver de votre point de vue terriblement. Les commerçants expliquent que la consommation, ça c'est, vous savez, les 100 milliards d'épargne des Français, les commerçants expliquent que la consommation est en train de fléchir. Est-ce qu'on doit aller plus loin? Est-ce que là, par exemple, ça serait le moment de soutenir la demande?
Alors, ça c'est la question du plan de relance que vous posez. Je trouve qu'il y a une chose qui n'a pas été beaucoup dite, c'est que le plan de relance, il n'est pas isolé. Au fond, dans le soutien de l'économie française depuis le printemps dernier, hein, depuis la crise Covid, il y a eu un peu deux piliers. Il y a eu des mesures d'urgence au printemps, il ne faut pas les oublier, parce qu'elles font à peu près 100 milliards. C'est à peu près l'équivalent du plan de relance. Et elles sont très centrées justement sur la demande, le soutien à la consommation, à travers notamment un régime de chômage partiel qui a été parmi les plus généreux d'Europe, et je crois que c'était justifié. Vous avez peut-être noté que ce régime va être prolongé d'ailleurs jusqu'à la fin de l'année. Et puis arrive le plan de relance qui lui est plutôt du côté de l'offre, comme disent les économistes, en soutien aux entreprises. Je crois que l'équilibre entre les deux est le bon, et que il faut bien sûr soutenir le pouvoir d'achat de nos concitoyens les plus défavorisés, ceux qui souffrent le plus de la crise. Mais aujourd'hui, remettre beaucoup d'argent en général vers les ménages, alors que pour l'essentiel, ils épargneront ces mesures supplémentaires, ça n'aurait pas beaucoup de sens, pas beaucoup d'utilité.
Alors on arrive à la question de la dette. On a entendu le reportage ensemble, François Villeroy de Gallo. Il y a ce sentiment que de toute façon, tant qu'on n'aura pas de vaccin, ça sera le quoi qu'il en coûte. Est-ce que le quoi qu'il en coûte a des limites ?
Je crois que oui. Et que c'est lié à ce que je disais à l'instant, c'est que nous ne sommes plus tout à fait dans la même phase qu'au printemps. Au printemps, c'était l'urgence, c'était le confinement, c'était la perte d'activité de 30% que je citais tout à l'heure. Et là, quoi qu'il en coûte pour faire face à cette situation de crise grave. Et puis nous sommes quand même dans une situation de sortie progressive au fur et à mesure de l'évolution de la situation sanitaire et heureusement de reprise économique progressive. Ça prend du temps.
Vous ne croyez pas une deuxième vague ? Vous ne pensez pas qu'il peut y avoir une deuxième vague qui nous remette par terre ?
Je ne suis pas du tout spécialiste de la santé, Alexandre Hensaïd. Il faut savoir reconnaître ses limites. Mais nous avons des mesures de protection, les masques, les gestes de barrière, le télétravail, qui nous permettent, je crois, à la fois d'avoir l'activité économique et de diminuer le risque sanitaire. Il ne faut pas du tout transiger de l'un par rapport à l'autre. Et donc, un élément clé, si nous voulons un jour rembourser cette dette, on va parler de la dette, et une dette, ça doit être remboursé. Dans la durée, mais ça doit être remboursé. Un élément clé, ça va être une meilleure maîtrise des dépenses. Pour le dire autrement, le quoi qu'il en coûte, au fur et à mesure de l'amélioration de la situation économique, doit laisser la place à un quand cela vaut le coup, si cela vaut le coup. Il faut être plus sélectif dans nos dépenses. De ce point de vue-là, je crois que nous avons encore des progrès à faire.
Mais est-ce que vous n'êtes pas comme Gilles Carrez, qu'on a entendu, assailli par le doute? Il nous dit, bah, ça se trouve, moi j'étais parmi ceux qui disaient, il y a des limites à la dette, mais ça se trouve, là on s'endette, il ne se passe rien, on va être à 200%, il ne se passera pas plus. Est-ce que vous aussi, vous n'êtes pas déstabilisé par cette terre inconnue?
Alexandre Vesselin, j'essaye de ne pas être déstabilisé, j'essaye en même temps de ne pas être ancré dans des certitudes ou des dogmes, j'essaye de regarder la réalité. C'est quoi la réalité? C'est que il y a pas une limite chiffrée. Par contre, il y a un élément totalement clé, c'est la confiance de ceux qui nous prêtent. Et ceux qui nous prêtent nous font confiance parce qu'ils pensent que à l'avenir, nous pourrons et nous voudrons rembourser notre dette. Donc d'abord, il faut être tout à fait clair sur le fait que cette dette, on ne l'annulera pas, parce que s'il commence à y avoir un doute sur la volonté de la France de rembourser la dette, là, vous allez voir immédiatement les prêteurs s'en aller.
On pourrait annuler la dette. Il y a des économistes qui expliquent que techniquement, il serait possible d'annuler la dette que détient aujourd'hui la Banque Centrale Européenne,
oui,
et vous êtes au Conseil des gouverneurs.
Je précise d'ailleurs qu'il se trouve pour la dette française, c'est la Banque de France qui la détient, c'est-à-dire nous tous. Hein. Donc si on annulait la dette, nous tous, nous faisons une grosse perte. Mais il se trouve que par ailleurs, dans les engagements que nous, France, nous avons pris au moment du traité constitutif de l'euro, nous avons dit très clairement que jamais nous ne ferions ça. En termes techniques, si vous me permettez, ça s'appelle le financement monétaire des déficits. Et nous avons dit, c'est pas une interdiction européenne qui est tombée de Bruxelles ou d'en haut, c'est un engagement que nous avons pris. Ça fait partie du pacte de confiance entre les 19 pays de l'euro et vis-à-vis des citoyens de la zone euro. Vous savez, les trois quarts des Européens font confiance à l'euro, aiment avoir l'euro comme monnaie, parce qu'ils pensent que c'est solide, ça tient aussi à ça. Mais au-delà de ça, s'il y a le moindre doute sur notre volonté de remboursement, à ce moment-là, la confiance diminue. Et qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est très important d'expliquer par rapport au reportage qu'on a entendu tout à l'heure. Si les investisseurs font moins confiance à la France, d'abord, ils commencent par monter le taux d'intérêt, le prix auquel ils nous prêtent. Et c'est pas du tout théorique. Regardez un pays comme l'Italie, près de nous. L'Italie paye plus cher aujourd'hui pour la dette parce qu'il y a un tout petit peu plus de questions sur la dette italienne. Et puis, il y a le stade ultime, c'est que si à un moment on perd vraiment confiance, là on ne peut plus emprunter du tout. Ça a été la Grèce il y a 10 ans, c'est l'Argentine aujourd'hui. La France n'en est pas là.
Mais bah, on a entendu qu'on en était loin justement, c'était le propos.
Non, mais je crois que justement, ce qui est très important, c'est que la confiance des prêteurs demeure sur notre capacité à rembourser.
Mais alors qui va payer ? Ouais.
Et ça suppose trois ingrédients sur notre capacité à rembourser. Nous avons les deux premiers, je crois que nous n'avons pas assez le troisième.
C'est-à-dire ?
Et il faut additionner trois ingrédients sur notre capacité à rembourser. Le temps, et on ne va pas rembourser tout de suite, et il faudra se désendetter au fur et à mesure du retour de la croissance. Deuxièmement, la croissance, justement, elle est en train de revenir progressivement, mais on estime que c'est en 2022 que nous aurons effacé la crise Covid, retrouvé le niveau pré-Covid. Et le troisième élément, c'est la maîtrise des dépenses. Et là, je le dis très clairement, nous n'y sommes pas.
Donc vous pensez que Bruno Le Maire, quand il dit qu'il va falloir faire la réforme des retraites, là, il a raison ?
Je ne me prononce pas sur telle ou telle réforme, ça c'est le débat démocratique qui doit l'avoir. Mais je vais vous citer un chiffre, Alexandra Ben Saïd, et vous allez voir, c'est tout gouvernement confondu. Quand on regarde l'évolution des dépenses publiques dans notre pays depuis 10 ans, entre 2010 et 2020, avant le Covid, nos dépenses publiques sont déjà plus élevées que celles de tous nos voisins européens alors que nous avons le même modèle social. Ça pose une petite question sur l'efficacité de nos dépenses. Mais ces dépenses, elles étaient très élevées et en plus elles ont augmenté de 1% par an en moyenne et 1% c'est après inflation. Il semble que là, aujourd'hui, ce chiffre est encore augmenté. Mmh. Je vous parle pas des dépenses Covid, celles-là elles sont temporaires, elles sont nécessaires, il faut évidemment faire face au Covid. Mais si on regarde les dépenses hors Covid, le Haut Conseil des Finances Publiques, qui est une institution indépendante, a regardé ces derniers jours et dit le chiffre de dépenses hors Covid, il augmente encore plus vite qu'avant, que le 1%. Là, il y a une vraie alerte et c'est là qu'il faut que nous retrouvions la maîtrise. Nous ne pouvons pas tout nous offrir tout le temps. Il y a une dette justifiée qui est la dette Covid. Il y a une dette qui est dangereuse, c'est celle où nous vivrions durablement au-dessus de nos moyens. Là, il faut que nous fassions attention.
Alors, si on regarde le thermomètre, on a quand même Maastricht qui nous dit le déficit ne doit pas dépasser 3%, la dette ne doit pas dépasser 60%. Ma dernière question, c'est est-ce que finalement ce Covid n'a pas tué les critères de Maastricht ? On sait que Paris veut les revoir.
Oui, écoutez, les critères de Maastricht, c'est une règle. Honnêtement, on ne peut pas dire qu'elle est beaucoup mordue depuis le début.
Est-ce qu'il n'est pas temps de le reconnaître ?
Oui, mais c'est pas un problème de règle, si vous voulez bien. C'est un problème de bon sens et de confiance. Je reviens toujours à ça. Est-ce que nous transmettons à nos enfants, à nos petits-enfants dont vous parliez tout à l'heure, un sac à dos qui est toujours plus lourd ? Parce que ça veut dire que la charge qui pèse sur les générations suivantes va être plus lourde. Donc nous manquons un peu à la solidarité. Mais c'est aussi un problème de confiance de nos prêteurs. Et donc, nous devons absolument, comme l'ont fait nos voisins européens, mieux maîtriser nos dépenses. Moi, je crois énormément au modèle social européen. Il se trouve simplement que nous dépensons plus que les autres pour avoir le même résultat. Il y a un sujet d'efficacité de la dépense publique. On peut faire des dépenses temporaires contre le Covid, il le faut. Mais les dépenses hors Covid récurrentes, il faut être plus efficace.
François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France, qui n'est donc pas déstabilisé. Merci d'avoir été sur France Inter.
Merci.
Ma vie au boulot, alors, avec un nombre de contaminations au virus en hausse, Juliette s'inquiète pour son compagnon Maxime. Il a 35 ans, il est diabétique, il doit continuer de prendre le RER et d'aller au boulot. Comment se fait-il qu'il ne soit pas plus protégé, vous demande Juliette.
C'est une vraie question, Juliette, surtout que pendant la première vague, la protection des salariés et des fonctionnaires vulnérables était beaucoup plus claire. Il y avait une liste de 11 critères établis par le Haut Conseil à la Santé publique. Une personne qui souffrait d'obésité, d'insuffisance rénale ou cardiaque ou d'une pathologie chronique respiratoire avait automatiquement droit à l'activité partielle ou à un arrêt de travail. C'était pareil pour vous, Juliette, pour les salariés proches d'une personne susceptible de développer une forme sévère de la maladie, vous n'étiez pas tenu de venir travailler. Mais voilà, un décret du 29 août a réduit ces conditions à 4 critères seulement. Il faut avoir plus de 65 ans et souffrir d'un diabète lié à une obésité pour basculer dans le régime du chômage partiel. C'est aussi le cas des personnes immunodéprimées, en chimiothérapie et ça concerne enfin celles qui sont dialysées ou qui souffrent d'une insuffisance rénale chronique sévère. Tous les autres salariés comme Maxime ou les agents publics jugés vulnérables il y a encore un mois n'ont pas d'autre solution que de télétravailler. Si l'employeur est d'accord et si c'est compatible avec leur métier. Ils peuvent toujours demander un arrêt de travail à leur médecin, mais c'est aléatoire et risqué en cas de contrôle parce qu'ils ne sont pas malades.
Sandrine Foulon, est-ce que ce nouveau décret repose peut-être sur des constats scientifiques ?
Eh bien, a priori non. Le 2 septembre, le Haut Conseil à la Santé publique a rendu un avis. Les scientifiques considèrent qu'il est impossible de distinguer des personnes à très haut risque vital. Ce qui veut dire que faire un tri parmi les personnes qui pourraient développer une forme grave du Covid-19 n'est pas pertinent. Ils en avaient d'ailleurs informé le ministère de la Santé en juillet. Il y a 15 jours, le professeur Delfrécy, auditionné au Sénat, a lui aussi expliqué que ce décret tombait très mal. Le président du comité scientifique a rappelé qu'il y avait quelque chose d'un peu incohérent et que cela avait été signalé aux autorités de santé. En tout cas, depuis un mois, Juliette, la pilule ne passe pas. Des collectifs comme les vulnérables sacrifiés ou les sacrifiables se sont créés contre ce décret. Pétitions, requêtes devant le Conseil d'État, les initiatives se multiplient. Le syndicat national des professionnels de la santé au travail a lui aussi appelé le gouvernement à la raison. Tous souhaiteraient revenir à la situation précédente, ce qui serait logique si la France vire de plus en plus au rouge écarlate.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot, pour lui écrire, c'est par mail par exemple. On n'arrête pas l'écho, pas d'accent, tout attaché. Et oui, avec deux N, double négation là aussi. Et ça n'est pas, on ne rate pas l'écho. Voilà, merci à tous.